Radio Cité Genève présente Nectar, l'émission consacrée à l'œnologie. Pour tout savoir sur le vin, de la vigne à la bouteille en passant par le tonneau. Rendez-vous avec Aristide le dimanche à 17h sur Radio Cité Genève.
Bonjour chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Cité et maintenant est venu le moment de l'émission Nectar. Je note que c'est la 52e émission que nous vous proposons sur le sujet du vin. Aristide vous salue avec toute la complicité qu'il doit à ses fidèles auditeurs. Nous nous efforçons donc à chaque fois d'évoquer le vin de manière factuelle, objective, de le démystifier et en un mot de parler vrai. Alors, à propos de vérité, lors d'une récente émission, nous avons évoqué le champagne, principalement pour évoquer la vérité historique. Il s'agissait de démystifier le champagne, de parler de l'aspect financier, de l'aspect mercantile, qui est tout à fait remarquable. Mais en premier lieu, nous avons établi la vérité historique, vérité qui consiste à attribuer le champagne à un Anglais, du nom de Christopher Meret, qui est le premier, c'est chose prouvée, à en avoir écrit la recette et à l'avoir communiqué à l'Académie des sciences de son pays. Eh bien, cette vérité, cette paternité du champagne ne s'est pas encore imposée à tous, et notamment à un certain Bernard Pivot, de l'Académie Goncourt, que nous admirons fort pour les célèbres émissions qu'il a menées avec beaucoup de brio, et qui, il y a quelques années, a publié un dictionnaire amoureux du vin. Alors, on peut s'y plonger, parce que, bien entendu, il évoque le champagne, et malgré la vérité historique, il l'attribue toujours à Dom Pérignon. Voilà exactement ce que Pivot écrit dans son dictionnaire amoureux. Pour avoir inventé la méthode champenoise et apporté sur notre terre de douleur un plaisir exquis, Dom Pérignon devrait être depuis longtemps canonisé. Alors que se succèdent les charrettes de procès en béatification, le sien n'est même pas envisagé. Rome distingue les chrétiens qui ont souffert ou qui ont soulagé des souffrances et jamais les chrétiens qui ont rendu la vie plus agréable. Dom Pérignon a ajouté du bonheur et rien que pour cela, il mériterait d'être, sinon un saint, du moins un bienheureux. Et Bernard Pivot d'enchaîner avec d'autres personnages à canoniser, ça serait Don Ruinard, il y aurait les moines de Saint-Bâle, de Saint-Thierry, un certain abbé Godinot, etc., etc. Abbé Godinot qui a rédigé un traité définissant la matière, la manière de cultiver la vigne et de faire le vin en Champagne. Voilà. Eh bien, donc, comme nous l'avons dit lors de cette récente émission, le vin de Champagne, le Champagne, est à attribuer à l'Anglais Christopher Meret, et celui qui en a fait la preuve, document à l'appui, est Tom Stephenson, dont nous avons aussi parlé, parce que c'est l'autorité mondiale en matière de vin effervescent. Voilà. Alors, pourquoi Dom Pérignon est-il porté si haut? C'est simplement que l'on entretient sa légende pour raison publicitaire. Qui entretient cette légende principalement? C'est LVMH, donc, qui est propriétaire des fameuses et excellentes, par ailleurs, cuvées Dom Pérignon, et qui détient une autre étiquette bien connue, Veuve Clicquot. Alors, Veuve Clicquot est aussi un personnage tout à fait considérable. Et la Veuve Clicquot est une personne qui est frappée par le malheur de perdre son mari alors qu'elle n'a que 27 ans. Son mari, c'était François Clicquot, négociant vin, qui était victime d'une grippe tellement bénigne que les médecins n'y ont pas prêté attention. Ils se sont dit, voilà, ça va passer tout seul. Et puis, le pauvre François Clicquot en est mort. Alors, Dame Clicquot, qui est de son nom Nicole Barbe Ponsardin, aurait pu se remarier, devenir une veuve joyeuse, comme l'a illustré par exemple Franzler. Ben pas du tout. Elle s'est investie dans le commerce du vin avec une maestria considérable, tant et si bien que commercialement, comme on dit, eh bien, elle a fait un tabac. Voilà. Alors le mythe de la veuve Clicquot est savamment entretenu, pour des raisons commerciales, de nouveau, et beaucoup de champagne porte maintenant des noms de veuve X, Y, veuve une telle, etc., etc. Ça fait bien dans le cortège. Eh bien, voilà pour la vérité concernant le champagne. Toujours en Champagne, je signale l'inauguration tout à fait récente d'un musée remarquable à Épernay, musée du champagne, où on peut admirer 100 000 objets. Tenez-vous bien, 100 000 objets. Voilà. Eh bien, nous tournons la page du champagne et nous nous accordons une petite pause en compagnie de la ritournelle signée Wolfgang Amadeus Mozart.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité et c'est Aristide qui, pour la 52e fois, vous entretient du vin avec pour seul souci l'objectivité. Ben oui, nous parlons du vin depuis maintenant à peu près 2 ans, mais j'aimerais une fois évoquer l'eau, parce que j'en ai un petit peu marre de ces gens qui dénigrent l'eau. Il y a des plaisanteries en usage, mais des plaisanteries éculées, que tout le monde a entendu 100 fois, dire « l'eau, ça mouille », l'eau, ça rouille, ah tiens, mais c'est du château La Pompe, etc., etc. Je crois que aimer le bon vin n'exclut pas d'apprécier l'eau. C'est un besoin qui est reconnu, évidemment, des médecins. Pour ce qui me concerne, j'avoue boire beaucoup d'eau et assez peu de vin. Je me le permets seulement en soirée, voilà. Alors, il y a des endroits, des groupes, des sociétés, que sais-je, des coteries, où on s'en prend, des fois même assez violemment, à ceux qui boivent de l'eau, comme si c'était une espèce de sacrilège. Alors, à l'époque où la veuve Clicquot Ponsardin était encore une gamine, la future veuve Clicquot Ponsardin, voilà que Robespierre, le révolutionnaire plutôt sanguinaire que l'on sait, écrit un poème précisément pour s'en prendre aux buveurs d'eau. Et je vais vous lire les vers de Robespierre. « Bacchus, de là-haut, à tout buveur d'eau, lance un regard sévère. Oh, mes amis, tout buveur d'eau, et vous pouvez m'en croire, de tous les temps ne fut qu'un sot, j'en atteste l'histoire. » Ce sage effronté, cynique vanté, me paraît bien stupide. Oh, le beau plaisir d'aller se tapir au fond d'un tonneau vide. Voilà. Ben, évidemment que de la part de Robespierre, qui n'était pas plus poète que ça, eh bien, c'est de la poésie de bas étage. Mais c'est quelque chose de significatif. Il y a des gens qui choquent leurs camarades de table lorsqu'ils boivent de l'eau, et je trouve ceci parfaitement déplacé. Alors, nous restons en compagnie de Bernard Pivot maintenant pour avoir compte rendu d'un petit incident qu'il a vécu et qui s'est passé à Meursault. Donc Meursault, vous situez au cœur de la Bourgogne, un peu au sud de Beaune, pas plus d'une dizaine de kilomètres, je crois. Meursault, rendu célèbre pour ses vins blancs, pour ses chardonnays absolument magnifiques qui font honneur à la côte de Beaune. Donc, notre ami Bernard Pivot, que nous admirons intensément pour les magnifiques émissions qu'il a réalisées, se trouve au volant de sa voiture à l'entrée de Meursault. Et il écrit « À l'entrée de Meursault, un gendarme me fit signe d'arrêter ma SM. » Ça doit être le nom de sa voiture, la marque, je suppose. Je n'y connais rien dans le domaine. « Inquiet, quelle faute de conduite avais-je donc commise ? Je la rangeai le long du trottoir et baissai la vitre. « Bonjour, monsieur, me dit le Pandore, l'air sévère. Vous ne pouvez pas aller plus loin comme ça. »« Comment comme ça ? Vous avez vu ce qu'il y a sur la plage arrière de votre voiture ? Je me retournai. Une bouteille d'eau minérale. L'eau est interdite à Meursault pendant la polée, c'est une fête, déclara le gendarme, mi-sérieux, mi-amusé. Attendez-moi quelques instants. Il revint avec une bouteille de vin, du Meursault bien entendu. Il la mit à la place de la bouteille d'eau qu'il confisqua. Voilà. Donc, c'était évidemment un agent pinçard sans rire qui s'est permis cette plaisanterie. On n'oserait plus agir ainsi aujourd'hui. Donc, l'agent confisque la bouteille d'eau de Bernard Pivot et la remplace par une bouteille de vin. Je dois dire que ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Tout ceci pour dire que l'eau, en certains endroits, est mal vue. On a l'air un peu de trahir la cause ou d'être de mauvaise conduite. Et je défends qu'il faut boire de l'eau en quantité suffisante pour mener sa journée. Voilà, nous écoutons de nouveau Mozart avec sa délicieuse musique de nuit pour une petite pause.
Radio Cité Genève.
Radio Cité Genève.
Vous êtes sur Radio Cité et c'est Aristide qui, pour la 52e fois, vous entretient du vin avec pour seul souci l'objectivité. Ben oui, nous parlons du vin depuis maintenant à peu près 2 ans, mais j'aimerais une fois évoquer l'eau parce que j'en ai un petit peu marre de ces gens qui dénigrent l'eau. Il y a des plaisanteries en usage, mais des plaisanteries éculées que tout le monde a entendu 100 fois dire l'eau ça mouille, l'eau ça rouille, ah tiens mais c'est du château la pompe, etc. etc. Je crois que aimer le bon vin n'exclut pas d'apprécier l'eau, c'est un besoin qui est reconnu évidemment des médecins. Pour ce qui me concerne, j'avoue boire beaucoup d'eau et assez peu de vin, je me le permets seulement en soirée, voilà. Alors, il y a des endroits, des groupes, des sociétés, que sais-je, des coteries, où on s'en prend, des fois même assez violemment, à ceux qui boivent de l'eau, comme si c'était une espèce de sacrilège. Alors, à l'époque où la veuve Clicquot Ponsardin était encore une gamine, la future veuve Clicquot Ponsardin, voilà que Robespierre, le révolutionnaire plutôt sanguinaire que l'on sait, écrit un poème précisément pour s'en prendre aux buveurs d'eau. Et je vais vous lire les vers de Robespierre. Bacchus de là-haut à tout buveur d'eau lance un regard sévère. Oh, mes amis, tout buveur d'eau, et vous pouvez m'en croire, de tous les temps ne fut qu'un sot, j'en atteste l'histoire. Ce sage effronté, cynique vanté, me paraît bien stupide. Oh, le beau plaisir d'aller se tapir au fond d'un tonneau vide. Voilà. Ben, évidemment que de la part de Robespierre, qui n'était pas plus poète que ça, c'est de la poésie de bas étage. Mais c'est quelque chose de significatif. Il y a des gens qui choquent leurs camarades de table lorsqu'ils boivent de l'eau, et je trouve ceci parfaitement déplacé. Alors, nous restons en compagnie de Bernard Pivot maintenant pour avoir compte rendu d'un petit incident qu'il a vécu et qui s'est passé à Meursault. Donc Meursault, vous situez au cœur de la Bourgogne, un peu au sud de Beaune, pas plus d'une dizaine de kilomètres, je crois. Meursault, rendu célèbre pour ses vins blancs, pour ses chardonnays absolument magnifiques, qui font honneur à la côte de Beaune. Donc, notre ami Bernard Pivot, que nous admirons intensément pour les magnifiques émissions qu'il a réalisées, se trouve au volant de sa voiture à l'entrée de Meursault. Et il écrit « À l'entrée de Meursault, un gendarme me fit signe d'arrêter ma SM. » Ça doit être le nom de sa voiture, la marque, je suppose. Je n'y connais rien dans le domaine. « Inquiet, quelle faute de conduite avais-je donc commise ? Je la rangeai le long du trottoir et baissai la vitre. « Bonjour, monsieur, me dit le Pandore, l'air sévère. Vous ne pouvez pas aller plus loin comme ça. »« Comment comme ça ? Vous avez vu ce qu'il y a sur la plage arrière de votre voiture ? Je me retournai. Une bouteille d'eau minérale. L'eau est interdite à Meursault pendant la polée, c'est une fête, déclara le gendarme, mi-sérieux, mi-amusé. Attendez-moi quelques instants. Il revint avec une bouteille de vin, du Meursault bien entendu. Il l'a mis à la place de la bouteille d'eau qu'il confisqua. Voilà. Donc, c'était évidemment un agent pince-sard sans rire qui s'est permis cette plaisanterie. On n'oserait plus agir ainsi aujourd'hui. Donc, l'agent confisque la bouteille d'eau de Bernard Pivot et la remplace par une bouteille de vin. Je dois dire que ça ne m'est jamais arrivé. Voilà. Tout ceci pour dire que l'eau, en certains endroits, est mal vu, on a l'air un peu de trahir la cause ou d'être de mauvaise conduite, et je défends qu'il faut boire de l'eau en quantité suffisante pour mener sa journée. Voilà, nous écoutons de nouveau Mozart avec sa délicieuse musique de nuit pour une petite pause.
Radio Cité Genève,
92.2 FM.
Vous êtes toujours sur Radio Cité et c'est l'émission Nectar qui bat son plein avec Aristide qui en est, il le rappelle, à sa 52e émission. Voilà. Vous aurez remarqué que l'automne, le mois de septembre, le mois d'octobre principalement, sont le temps des foires au vin. Et alors, aller dans une foire au vin, dans un supermarché, c'est très bien, mais on est pris de panique devant la quantité de bouteilles, devant le nombre d'étiquettes différentes, et on ne sait quoi acheter. Alors, il y a certaines revues qui viennent à notre secours, comme la revue Vin de France, comme aussi des revues d'hebdomadaires qui consacrent tout un cahier spécial, parfois, aux bonnes affaires qu'on pourrait réaliser. Mais si vous consultez ces listes de vins, vous avez des catalogues fastidieux avec des médailles, des étoiles, des recommandations, des comptes rendus de dégustation. Et on ne sait pas comment s'en sortir. À titre personnel, ça m'est arrivé de suivre des recommandations de ces publications et j'ai toujours été déçu. Donc, encore une fois, nous avons souvent enfoncé le clou, se méfier du jugement d'autrui, se méfier des médailles, se méfier même de la publicité. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est d'acheter une bouteille, de la goûter tranquillement, en plusieurs fois, à plusieurs, pour avoir des avis peut-être divergents, et ensuite de faire son choix et en acheter une certaine quantité si le vin vous a plu. Pour ce qui me regarde, j'ai une tactique, c'est-à-dire que j'achète toujours le vin le plus cher, mais d'une région qui est très peu cotée. Il y a des vignobles qui n'ont pas de notoriété particulière, mais où les vignerons consciencieux, talentueux, fourmillent. Et pour citer des régions un peu moins cotées, on peut évoquer les Côtes de Duras. On peut évoquer Gaillac, qui offre des cépages peu connus. Cahors, qui est en pleine renaissance de son Malbec. Ou Côte, c'est un autre nom du même cépage. Les Côtes du Luberon, qui sont considérées souvent comme un sous-côte du Rhône. De même pour la région Ardèche, qui est trop au sud par rapport au vin de la côte rôtie et de l'Ermitage. La région de Grignan, c'était autrefois les coteaux du Tricastin, mal aimés, des bouteilles bon marché et assez médiocres. Fronton, Bergerac, aussi un village de Bourgogne peu connu parce que excentré par rapport à la Côte d'Or, c'est Irancy. Voilà. Donc on peut repérer des régions peu cotées, choisir le vin le plus cher de cette région et très généralement, je l'ai remarqué, on a affaire à des cuvées d'exception. Une autre chose qu'il faut faire, plutôt que de gober les avis tout faits des chroniqueurs, c'est analyser les étiquettes point par point. Chaque mention est intéressante. Il y a la mention de l'année, il y a la mention du propriétaire. Est-ce que c'est le propriétaire qui met en bouteille ou est-ce que c'est un négociant qui fait du gros pour des supermarchés? Quelle est la valeur des années? Quel est le degré d'alcool? Toute indication est bonne à prendre et je regrette que pour beaucoup de vins, on ne prenne pas la peine, c'est dommage qu'il n'y ait pas d'obligation légale, de mentionner le nom des cépages. Donc malheureusement, très souvent, il y a des vins que vous achetez sans savoir exactement ce que vous buvez et vous ne pouvez pas pronostiquer le goût du cru. Voilà. Eh bien, cette tactique, je vous la recommande très vivement. Donc, vous choisissez une bouteille qui vous paraît prometteuse et si elle tient toutes ses promesses, eh bien, alors à ce moment, il n'est pas imprudent, il n'est pas hasardeux d'acquérir quelques flacons de celle-ci. Une chose à laquelle il faut veiller, c'est la notion de juste prix, parce que dans le domaine des vins, comme dans le domaine de la joaillerie, par exemple, il y a des prix qui n'ont guère de rapport avec le coût de production. Dans le domaine de la joaillerie, puisque je le citais, il y a des bijoux qui peuvent être vendus facilement 10 fois ce que leur fabrication a coûté. Eh bien, dans les vins, c'est même encore plus grave, c'est-à-dire que certaines bouteilles valent 10 fois leur prix de revient et d'autres 50 fois. Il s'agit bien entendu des crus les plus prestigieux qui deviennent une affaire purement spéculative. N'ayons pas peur des mots. Voilà. Eh bien, nous vous en dirons davantage après une petite ritournelle.
Radio Cité Genève.
92.2 FM.
Vous êtes toujours sur Radio Cité et c'est toujours Aristide qui officie pour vous parler des vins avec une objectivité aussi rigoureuse que possible. Nous parlions des foires aux vins, de la façon de bien acheter. C'est vrai que à considérer le commerce, on peut avoir de la méfiance hein, parce que le vin ressemble à tout produit boursier, c'est-à-dire que la cote est très variable et la revue de Vins de France parle même, j'aime bien cette expression, d'un yo-yo complexe des prix dû à la mondialisation. Et de citer foule d'exemples, tous plus édifiants les uns que les autres. Eh bien, ce yo-yo complexe dû à la mondialisation est dû principalement à la Chine, où il y a des acquéreurs qui se précipitent et qui font monter les cours de façon tout à fait vertigineuse. Il y a aussi le cas des enchères aussi, et ça c'est encore plus bizarre et incontrôlable, parce que on ne sait pas exactement ce qui se passe dans la tête des acheteurs, mais il y a des vins qui sont cotés, je ne sais, je dis un peu au hasard, 150 ou 200 euros la bouteille, qui n'atteignent pas ce prix, et des vins qui acquis à la propriété. Il est fait mention, par exemple, dans la revue Vins de France, La Grange des Pères, qui est un peu moins cher que le cru que je viens de citer au domaine, et qui monte en vente aux enchères à 300, 350 euros. Donc, il y a un mystère que l'on n'arrive pas à surmonter. Décidément, le prix des vins est une affaire mystérieuse. Pour bien connaître le commerce des enchères, il existe en France un certain Claude Maratier qui est le pape des enchères. Et alors, il nous met en garde contre les fluctuations dues au millésime. Voilà l'exemple qu'il donne. Un Mouton Rothschild 1987 est coté actuellement, donc maintenant, 2020, 250 euros. Alors que précédemment, il était beaucoup plus coté. Et puis, si on prend un grand millésime, je ne sais, par exemple 2000 ou 2009, ou je sais pas, 1996, eh bien, c'est facilement 1000 euros. Donc, la cote des mauvais millésimes, elle est effectivement très basse. Les mauvais millésimes, les amateurs les connaissent par cœur. Il y a eu 56, 60, 63, 68, 69, 77. Et puis, depuis, le réchauffement climatique y est peut-être pour quelque chose, mais cela n'existe plus. C'est-à-dire que si maintenant vous achetez un Latour, un Lafite, un Margaux, un Aubryon, ou tout ce que vous voulez comme premier cru classé, eh bien, il n'y a plus de mauvais millésime simplement parce qu'on voue à la vigne, à la vinification, un soin de plus en plus maniaque, on pratique le tri, les œnologues sont toujours plus experts. Donc si vous achetez maintenant un millésime déclaré officiellement faible d'un très grand cru, eh bien, en principe, vous faites une bonne affaire. Voilà. Donc, pour ces tout grands crus, célèbres, qu'on s'arrache et qu'on a plaisir à présenter sur sa table, il faut savoir qu'un mauvais millésime, ça n'existe plus. Voilà. Maintenant, une autre chose contre laquelle je mets en garde, c'est la fixation, presque la fétichisation de certains noms. Alors, en Bourgogne, à Bordeaux, il y a des noms qui sont célèbres, mais qui ne font pas toujours du bon et qui sont des fois décevants, qui profitent de leur nom pour majorer les prix de manière, n'ayons pas peur des mots, éhontée. Alors, je cite le cas des vins Leroy. Madame Leroy, qui était co-gestionnaire du domaine de la Romanée-Conti, voilà. Je dis, elle était co-gestionnaire parce qu'elle en a été éjectée. Voilà. Eh bien, cette maison, le roi, avait il y a quelques années un Bourgogne générique qui était vendu 15 euros. Bon, c'est assez raisonnable. En supermarché, en Suisse, en France, ailleurs, ça représente 10, 12 francs, peut-être un peu plus. Donc, à 15 euros, on était dans un prix normal. Et voilà maintenant que la réputation croissante aidant, donc, le même vin est vendu maintenant à 100 euros. Donc on a raison, dans la revue Vin de France, de parler de yo-yo commercial. Voilà. Et puis, il y a d'autres noms célèbres qui pratiquent des prix faramineux parce qu'on s'arrache les vins. Il y a le nom de Cauche-Durie à Meursault. Donc si vous allez à Meursault pour acheter quelques bouteilles de Monsieur Cauche-Durie, on ne vous ouvrira même pas la porte, vous pouvez sonner pendant une demi-heure, vous pouvez enfoncer le portail avec un camion bélier si vous en avez envie, vous ne repartirez pas avec la moindre bouteille. Il y a quelques noms comme Armand Rousseau, Gevrey Chambertin, les célèbres vins de Henri Jaillet, son Richebourg, son Cros-Parentoux, qu'on ne trouve plus et qui valent maintenant des milliers de francs. Ça peut aller de 10 000 à 12 000 à 16 000 euros. Et puis, je voudrais citer une expérience personnelle. J'avais acheté à un certain prix, donc je voulais dire élevé, un vin de Aubert de Vilaine. C'était un Ruilly premier cru. Alors, Aubert de Vilaine, c'est le gestionnaire de la Romanée-Conti, de la célébrissime Romanée-Conti, qui est, pour Bernard Pivot, le meilleur vin du monde. Bon, jusque-là, tout va bien. Donc, le Ruilly premier cru, je l'ai payé un certain prix, et je peux vous dire, sans médisance, qu'il était parfaitement décevant. De mon avis, il était même défectueux. Et ben voilà, la signature la plus prestigieuse, peut-être de celui qui est considéré comme le meilleur, le plus grand vigneron du monde, eh bien, en l'occurrence, elle ne valait rien du tout et son vin était médiocre. Voilà. Donc, deux conseils, retenez de cette tranche de l'émission deux conseils. Un, pour les grands crus, les mauvais millésimes n'existent plus. Et deux, même les noms les plus prestigieux n'offrent pas une garantie absolue, loin de là. Voilà. Eh bien, le moment est venu de goûter encore une fois à la ritournelle.